Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast L'Entrepreneur en Action. Je suis Quentin Touzard, entrepreneur dans l'innovation numérique. Dans ce podcast, nous allons découvrir des parcours d'entrepreneurs qui vont nous raconter leur histoire et la relire à la lumière des principes de l'effectuation. Pour en savoir plus sur l'effectuation, je vous invite à lire le blog de Philippe Zilberzahn ou écouter les épisodes du podcast dédiés au sujet. Merci à Novster de sponsoriser ce podcast. Novster accompagne les organisations à l'innovation grâce au design effectual. Je vous invite à consulter le site novster.fr pour découvrir nos services. Bienvenue dans cette série d'épisodes spécialement consacrés au JFE. Les journées francophones de l'effectuation, c'est plus de 70 personnes qui se sont réunies les 13 et 14 janvier 2020 sur le thème de l'effectuation pour échanger sur la façon dont les entrepreneurs à succès pensent et agissent vraiment. Merci aux organisateurs Guillaume Maison et Julien Frisson d'Epifit, aux experts Philippe Zilberzahn et Dominique Vian, ainsi qu'aux témoins. Vous pourrez retrouver plus d'infos sur effectuation-france.org. Dans cet épisode, Pierre Pezziardi est venu nous parler de son expérience de construction de start-up d'État au sein de beta-gouv.fr, le tout en mode effectual. Bonne écoute.
Je suis un entrepreneur du numérique, moi je viens de l'informatique et il m'est arrivé quelque chose d'intéressant dans ma carrière, c'est que on a essayé d'améliorer une partie du système. On avait des directions informatiques. Je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent dans les grands groupes. La direction informatique, c'est le truc qui coûte cher, qui est trop lent, qui ne fait rien, qui vous fait des applis qui ne marchent pas bien. Et vous ne comprenez pas pourquoi à l'extérieur, Facebook, ça marche, c'est génial. Bon, c'est partout pareil. Et alors, on essayait d'améliorer cette situation. Et puis, croyez-le ou pas, on y arrive dans des grandes banques, des grands groupes. Et du coup, on améliore la productivité de cet ensemble, de ce sous-ensemble de l'entreprise. Et là, on réussit des grands programmes, des machins, notamment des grosses cathédrales informatiques comme le système de régulation bancaire s'appelle Basel II, qui vous permettent de bien contrôler qu'une banque va ou ne va pas faire faillite le lendemain. Et donc, on a été félicités copieusement, rémunérés grâce à vous, parce que vous payez avec vos cartes bleues, vous m'avez payé. Et ces gros systèmes, la veille de ce qui s'est passé en 2008, là, vous vous souvenez, à l'automne, il y a quand même plusieurs banques françaises qui ont fait faillite. Et y a un petit virement de l'État qui est arrivé sur le compte de la Générale et de la BNP. Vous ne le saviez pas. Et les systèmes d'information qu'on avait contribué à bâtir, c'est une énorme cathédrale qui a coûté des centaines de millions. Donc, qui consistait en un voyant rouge ou un voyant vert. Et ben, je vous donne en mille quelle était la couleur du voyant la veille de... Voilà, c'est vert. Bon, vous êtes réactif. Et donc ça fait un peu bizarre pour quelqu'un qui a fait carrière. Moi, je suis un passionné d'informatique. Bon, c'était de faire des systèmes d'information qui épanouissent, des Wikipédia, des Blablacar. Et je me retrouve en entreprise à être le bras armé de la bureaucratie. Je vais fabriquer des systèmes qui au fond, dont la finalité est contestable. Alors, on a aussi fabriqué des systèmes de gestion ressources humaines qui peuvent permettre de se suicider chez Orange. Enfin, on peut faire beaucoup de choses, on peut être très créatif. Et l'informatique peut être donc le bras armé d'une forme de reproduction des mœurs managériales et de tous les problèmes que vous connaissez dans les grandes entreprises pyramidales, en silo, où ne règne pas l'effectuation. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre un peu plus de large. Et donc, j'ai fabriqué de la microfinance. J'ai été associé chez KissKissBankBank parce que ça m'intéressait. La finalité était plus souhaitable, me semble-t-il. C'était de permettre à des gens qui n'ont pas de financement, des projets trop risqués. Vous ne faites pas une boucherie charcuterie sous franchise. Donc, on ne va pas vous prêter d'argent. Et de permettre de lever des fonds pour des projets risqués. Donc, on a travaillé, on a fait de la banque. Et ensuite, on a vendu cette société à la Banque Postale, qui l'a continué à la faire grossir. C'est une très belle entreprise, mais c'est typiquement de l'informatique qui décloisonne. On fabrique une banque tous ensemble, comme Wikipédia, on fabrique une encyclopédie tous ensemble. Blablacar, on fabrique une entreprise de transport, enfin de la mobilité. Et tout ça peut être décliné, ça a été très décliné dans le privé. Et l'inspiration, c'est que ça peut être décliné dans le public. C'est-à-dire qu'on peut faire aussi des politiques publiques participatives, on peut faire des choses très, très amusantes avec l'informatique. Et l'État, lui, il ne fait que des téléprocédures, des machins qui ne marchent pas. Donc, il a les pires ennuis. Et donc, en 2013, je fais en pleine construction de la halle Fraissinet, le machin, la station F, le temple du bullshit. J'alpague Flaperin pour dire, vous savez, bon, c'est intéressant de faire un temple jacobin dédié à l'innovation dans le privé, mais au fond, vous, de l'État, ce que vous pourriez faire, c'est que l'État, c'est quand même 22% du PIB en activité. Hein. Et donc, vous êtes une manne incroyable et dans lequel il y a un vrai problème d'innovation, comme les autres. Et, sauf que l'innovation n'arrive pas au centre, elle arrive plutôt aux extrémités du système, là où se posent les problèmes et avec des énergies qu'on peut mobiliser. Et donc, vous avez modélisé une forme d'incubateur de start-up d'État qu'on a fini par... C'est ça, quand on veut quelque chose, en fait, c'est assez marrant. Mais j'ai appris ça. J'écris des livres et puis après, je les vis. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein, parce que le fait d'écrire... formalise, permet de mieux parler quand se joue la décision dans un ascenseur. Et donc, j'ai fait ça. On a fait ça avec Henri Verdier, qui est devenu le directeur du numérique. On a fait une start-up d'État. Alors, une start-up d'État, c'était prendre un... C'était dire, au fond, il y a des ressources. Des ressources, c'est les agents publics. Il y a un système de contraintes, c'est la bureaucratie. Tout est interdit. Vous ne pouvez pas bouger. Vous pouvez pas bouger. Et donc, le système est un peu bloqué comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter au système dans la ressource? Eh bien, on va lui rajouter cette idée de perte acceptable, que vous appelez, moi, je l'ai découvert. Et c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe si on prend un agent public indigné d'une situation et qu'on lui donne la possibilité de déployer une politique publique localement et puis après de la faire passer à l'échelle pour qu'elle devienne nationale? Ça, on l'a fait 100 fois. Ça s'appelle beta.gouv. Aujourd'hui, c'est une politique institutionnalisée. Ça a été un service du Premier ministre que j'ai quitté il y a 6 mois. Mais ça rappelle assez profondément vos principes, puisque quelle a été la décision pour que ça se produise, cette chose-là? C'était acceptable d'un point de vue d'un décideur. Je me dis, voilà, bon, il y a plein de problèmes, vous êtes d'accord? Quelle que soit l'administration, quand je vais voir Jean Bassère à Pôle emploi, quand on va voir la sécurité sociale ou quand on va voir l'écologie. Et là, le montant, la perte acceptable, on l'a fixé à 200 000 euros pour l'État. Et 200 000 euros et 6 mois. Donc on a dit, écoutez, voilà, on dit au pire du pire, vous lancez un appel à un entrepreneur, etc. Au pire du pire, il n'y a personne. Bon, vous fermez la boutique. S'il y a quelqu'un, vous nommez un lauréat et vous misez 200 000 euros et 6 mois. Donc au pire du pire, vous avez perdu 200 000 euros. Enfin, vous avez une formation professionnelle qui vous a coûté 200 000 euros. Et donc cette perte acceptable, c'était le bon montant. C'était le bon montant. 200 000 euros permet d'être dans les tuyauteries de marché assez amusantes. Et donc, il nous arrive des choses incroyables. On joue cette pratique et de manière très opportuniste. Hein. Plusieurs personnes m'ont demandé, mais alors comment vous êtes allé là, 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 là? On va pas là. On va là où il y a un dirigeant qui dit, ah, je vous comprends. Il y a un dirigeant qui n'est pas dans une pathologie de héros, de dire « je suis le ministre du Travail, j'ai toutes les solutions ». Donc quelqu'un qui a déjà cette posture où ça va être plus simple de dire « oui, je suis prêt à être surpris, oui, je suis prêt à miser et oui, je comprends votre logique de maîtrise des risques ». Ce que je vous ai expliqué, ce n'est pas fini, toujours les pertes acceptables, parce qu'il y a l'argent, mais pour l'État, il y a la réputation. Souvenez-vous que l'État, ça ne se présente pas devant vous comme ça, en disant « ah, excusez-nous, on est l'État ». Nous sommes l'État, nous sommes une nation, nous sommes dans la métropole, nous sommes unis et égales, etc. Donc ça a une posture très haute quand ça parle. Et donc quand vous sortez un service public qui marchote ou qui ne marche qu'en Franche-Comté parce que finalement il n'y a que ça et que vous ne pouvez plus avoir la même posture. Donc il faut un autre mitigant du risque dans la perte acceptable, qui est la perte de réputation. C'est-à-dire, là, c'est ce qu'on proposait. On leur dit, voilà, quand vous sortez un service public qui sort de BetaGouv, d'où le nom, vous mettez un petit bandeau bêta. Vous changez votre posture et vous dites, ah, ici, l'État innove, excusez-nous de me désexcuser. Et dites-nous comment l'améliorer, etc. On va le faire grandir. Et donc, je vous donne 2 exemples. On a fait des choses amusantes. Vous avez peut-être 40% de non-recours aux prestations sociales. C'est-à-dire que le tissu de sécurité sociale dont a parlé Patrick tout à l'heure, là, et qu'il essaye de récupérer les aides au handicap, le RSA, le CMU, etc. Il y en a des centaines, plus les aides extra-légales locales. Ce filet-là, finalement, est largement sous-souscrit parce que les gens ne connaissent pas. Et il faut être ingénieur maintenant, tout de même, pour faire un conseil en ingénierie sociale. Ils appellent ça ingénierie sociale. C'est comme ingénierie formation professionnelle. Ça devient tellement compliqué qu'il faut des ingénieurs. On a mis ça dans un algo Et on a fait un simulateur qui s'appelle mesaides.gouv et qui est aujourd'hui l'outil de toutes les assistantes sociales dans le monde entier, en France. Et je parle du monde parce qu'on est quand même aux quatre coins du monde, dans la métropole. Et la blague, c'est justement ça. C'est qu'au début, quand on l'a lancé et que le président Hollande dit le simulateur des droits va changer la vie de bien nos concitoyens, ouais, n'empêche que ça marchait pas si vous étiez salarié, travailleur non salarié dans les DOM-TOM parce qu'on n'avait pas encore mis le logiciel à jour, etc. Puisqu'on avait pris la ressource telle qu'on l'avait. On a 6 mois pour sortir. Il faut sortir. Et donc, on mettra un bandeau bêta avec la limitation, mais on ne négociera pas cette ressource-là. C'est 6 mois et ça sera en prod. Donc forcément, ça marche pas pour les travailleurs non salariés du secteur agricole dans les DOM-TOM. Mais c'est pas grave parce qu'on met bandeau bêta et on dit « Attention, bientôt, ça va marcher. » Et on continue à améliorer. Et on a fait ça 100 fois et moi j'ai été très très surpris des profils qui ont émergé et on a vu quand on l'a fait à Pôle emploi, et c'est assez émouvant en fait, on a un petit gars d'une agence Pôle emploi de l'Est à Hayange, mairie Front National, et qui vient et qui dit « Oh, vous savez, Pôle emploi s'est construit sur les annonces, hein, les annonces, aujourd'hui, vous savez combien dans le flux d'embauche, combien sont le fruit d'une rencontre entre une offre d'emploi et une demande. Ce concept, ouais, on est autour de ça. Ils savent pas bien, mais c'est entre 10 et 20. Quoi. Donc le reste, c'est des candidatures spontanées et de la cooptation. Et là, c'est l'angle mort. C'est-à-dire que le site web Pôle emploi, c'était une fenêtre sur 10 à 20% du problème. Moi, je découvre ça, le type nous dit ça, puis il vient avec son opiniâtreté. Il est conseiller en agence. Hein. Il dit oui, je pense que quand même, on peut avoir des signaux faibles qu'une entreprise va recruter. J'ai fait un peu de modélisation de données. Le gars est informaticien le dimanche, il bosse, forcément, c'est ça, un entrepreneur, là, il a quelque chose qu'il travaille, pour des raisons diverses et variées, comme disait Patrick, et cette personne, on lui donne la possibilité. Forcément, tout le monde dit, c'est impossible, tu vas pas réussir, etc. Et c'est ce droit-là qu'on a réussi, c'est le droit à essayer, quoi. Et on a fabriqué un truc qui s'appelle la bonne boîte. Et là, c'est pareil, aujourd'hui, la bonne boîte, juste pour vous dire, comme il y a des millions d'usagers tous les mois et qu'on a fait des analyses de cohortes avec plusieurs centaines de milliers de personnes et qu'on s'aperçoit que ceux qui utilisent la bonne boîte sont 12% plus performants dans leur taux de retour à l'emploi, bah ça, la bonne boîte, ça gagne des centaines de millions d'euros d'argent à éviter chaque année. Des centaines de millions. Ça rembourse tous les investissements, mais 10 fois de tout ce qu'on a fait dans le programme. Mais comme Patrick, j'ai le même problème, c'est que je n'ai pas su faire rentrer cet argent, parce que ces externalités positives, on ne sait pas les resolvabiliser vers soi, c'est toujours compliqué. Ce qui est intéressant peut-être dans le témoignage que je vous fais, c'est que derrière chaque innovation, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose une rébellion, une règle qui allait être contestée. C'est-à-dire toute innovation, au fond, qui est portée dans le... Il y a une raison pour laquelle elle n'a pas trouvé sa place dans le système. Sinon, le système, il est assez adapté à ce qu'il fait. Hein. Donc, le Pôle emploi vous met des annonces d'emploi. Il est très adapté à faire des annonces. Ça ne marche pas, mais il le fait très bien. Et donc, un innovateur, il va structurellement contester une règle, une habitude, une technique, un usage, une coutume, une règle implicite, explicite, quelque chose, systématiquement. Et c'est pour ça qu'on a créé cette zone bêta, c'est-à-dire qu'on dit, on ne peut pas innover dans un espace où il faudrait le consensus au sein de l'Empire. On ne peut innover qu'à l'extérieur, où là, on peut contester la règle. Sur les deux exemples que je vous ai donnés, le simulateur des droits MEZ, qu'est-ce qu'il venait contester ? Il venait contester une règle extrêmement légitime, qui est... une aide sociale égale un responsable, égale un guichet, égale un formulaire CERFA, un IGAFone, une queue, enfin, c'est une règle. Et vous rigolez, mais n'empêche que elle a des avantages, cette règle. Le gars, il est responsable de son fonds, de ses critères d'éligibilité, etc., etc. Sauf que quand vous empilez 200 prestations, ça ne marche plus. Et c'est toujours ça, en fait, les systèmes. C'est-à-dire qu'on a des vieilles règles qui ont été une bonne solution à un moment donné, mais qu'on n'arrive plus à remettre en cause. Mais là, dans la psychologie des organisations, les organisations sont trop engagées dans ces règles pour que quelqu'un puisse les contester et avoir l'assentiment de tous. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut protéger les innovateurs et les mettre à l'extérieur où il est permis de penser autrement. Nous, Hollande, pourquoi Hollande a fait le lancement du simulateur des droits ? Parce qu'on allait mourir. Parce que la direction de la sécurité sociale disait « Mais arrêtez ça, ils sont complètement fous. » ils vont raconter des conneries dans leur simulateur, et du coup, ils vont amener plein de gens au guichet, et ça va être n'importe quoi. Et il ne faut pas les traiter d'horribles conservateurs et de méchants. Vous voyez, c'est tout à fait légitime ce qu'ils ont dit. Eux, ils ont les boutiques, ils ont les guichets, ils ont des millions de bénéficiaires. Et moi, je suis juste un petit gars qui dit « Ouais, mais quand même, on peut faire mieux. » Donc l'innovation, dans ces cas-là, c'est toujours... Il faut parler peut-être de double légitimité, c'est-à-dire les conservateurs conservent, c'est-à-dire ils font tourner le système tel qu'il est, pour imparfait qu'il soit, et il ne faut pas les contester, il ne faut pas les traiter, il ne faut pas leur dire... Ils ont raison d'être rétifs à toute forme d'innovation. Et les innovateurs ont également raison de dire qu'on peut faire mieux. Je dis que ces légitimités-là me semblent être assez irréconciliables, à tout le moins au début, jusqu'à ce que les années passant, l'innovateur acquiert du trafic, de l'impact. C'est pour ça que je posais la question à Patrick tout à l'heure, qu'elle est maintenant... face à des financeurs du chômage en France, comment ils le voient, Patrick ? Ils le voient comme quelqu'un qui va leur demander de solvabiliser durablement des aides au poste qu'ils ne payent pas aujourd'hui. Donc, il n'amène que des mauvaises nouvelles, Patrick. Donc, ça ne marche pas pour l'instant. Il ne peut pas se raccrocher, son expérimentation. Il va falloir qu'il trouve une autre... Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce pas de côté hors de l'organisation nous a semblé être la meilleure méthode que la ligne droite. Et la ligne droite, c'est plutôt celle qu'on essaye de faire toutes les entreprises, celle du consensus. Non, mais on va demander au COMEX son avis. Et le COMEX, il y a toujours un dans le COMEX qui fait « Oui, mais c'est un risque juridique pour la banque. Oui, mais ça va cannibaliser le marché machin des entreprises et donc c'est pas bon. » Et c'est « Oui, mais » qui va gagner. Donc, si vous essayez de faire de l'innovation radicale avec des perturbations de ce type-là, donc c'est l'accumulation de ces règles du jeu qui nous ont fait réussir. On va utiliser les ressources qu'on a. Donc, on ne cherche pas des innovations. Hein, on n'a pas fait des listes de trucs à faire, alors qu'il y en a à faire. Hein, y a pas grand-chose qui marche dans l'État. Hein, essayez de refaire votre carte grise, vous verrez. Donc, on aurait pu faire des listes. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait des innovations. On a cherché des innovateurs, parce que c'est ça, la ressource. Donc, ça ne sert à rien de passer un temps à chercher des innovations. En cherchant directement des innovateurs qui ont leur propre idée, laissons-nous surprendre. De toute manière, elles seront bonnes. Le deuxième, c'est la zone bêta. C'est-à-dire, il faut une forêt de Sherwood, une zone de non-droit, une zone où il est possible de mettre en prod sans demander la permission de l'ensemble des fonctions support qui se sont sédimentées dans l'organisation et qui sont là pour légitimement faire respecter des règles que vous n'avez pas pour intérêt de faire respecter à tout le moins au début. Donc, cette deuxième. La troisième, c'est qu'effectivement, comme on venait du numérique et qu'on n'était pas là pour faire des PME d'État, on fait des start-up d'État, c'est-à-dire qu'on fait des choses, si elles démarrent à Hayange, ce n'est pas pour y finir. C'est la bonne boîte, vous pouvez vous en servir. Et ça marche à Angoulême, à Toulouse, ça marche dans les métiers transversaux, ça marche à Mayotte. Ça, voilà. Mais il a fallu suivre une dynamique d'amélioration continue ensuite pour passer du prototype au premier client au service public national, à la licorne d'État, on a utilisé ce mot. Donc, l'amélioration continue. Enfin, le dernier principe, c'est le principe de raccrochage au système. Quand vous faites un pied de nez à l'organisation, elle vous en veut. C'est normal, vous imaginez. Malgré les propos que je peux tenir et retenir, vous avez la légitimité, nous avons aussi la nôtre, ha 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 ha. En fait, ça ne marche pas. Ça marche pas. Les gens, connard qui va réussir là où j'ai échoué. Donc, ça va très mal se passer, hein, en réalité. Donc, il y a un vrai travail, et je pense qu'on aurait pu l'améliorer, mais ce qui a bien fonctionné, notamment à Pôle emploi, où on a réussi ces retours à l'envoyeur, c'est d'avoir une vraie relation avec le dirigeant, parce qu'on en parlait avec les uns et les autres. La plupart des fonctionnaires, le directeur de cabinet du Premier ministre, par exemple, ils pensent qu'on est des informaticiens qui faisons des sites web en .gouv. Jean Bassère, ou moi, je pense qu'on est des gens qui propageons dans les organisations administratives des codes d'organisation plus épanouissants, qui permettent de l'autonomie, sous contrôle de résultats, donc une réforme plus sociétale qui prend acte que finalement les gens ne sont pas des enfants, il n'y a pas des parents qui ont fait l'ENA et puis des enfants qui vont exécuter ce que les gens ont pensé là, etc. Et Et donc, il faut, ça marche quand on a ce niveau de relation avec un dirigeant, et ça ne marche pas quand on ne l'a pas. Et quand on a ce bon niveau, bah, le dirigeant, il a le même désir que vous, c'est-à-dire qu'il veut aussi que son organisation se transforme. Il veut que la bonne boîte, ça marche. Et une fois que ça marche, il est content. Parce que d'ailleurs, il a joué sa réélection à Pôle emploi sur ce type de truc. Et ensuite, quand ça marche, il se dit, mais non seulement ça va résoudre les problèmes des chômeurs, ça va augmenter leur taux de retour à l'emploi, mais moi, j'ai une organisation qui ne marche pas bien, qui refont pour la quatrième fois son offre de service, qui n'a aucun feedback sur... qui ne laisse aucune marge de manœuvre à ses agents. Alors que moi, Jean Bassière, j'écris des livres où je dis qu'il faut laisser des marges de manœuvre aux agents pour permettre aux gens de résoudre les problèmes des chômeurs. Mais son organisation, elle produit l'inverse. Elle produit des normes qui s'imposent aux conseillers Pôle emploi, qui sont complètement dépossédés de leur autonomie et qui ne vont pas résoudre vos problèmes, ils vont appliquer le process. Moi, ma femme est allée chercher, savoir si elle est éligible à une formation, elle fait... On va faire le CV d'abord. Et on va faire une formation au CV. Non, mais je viens juste savoir si je suis éligible à cette formation. Je vais pas. Je vais faire une formation de naturopathe, j'en ai pour 2 ans. Je vais pas faire mon CV. On applique le process. Et donc, c'est des gens qui il faut leur reconnaître ça. C'est-à-dire qu'on n'est que des humains, on est faible, même si on a le pouvoir, c'est dur. Même Macron, là, il pensait qu'il machin, il fait ce qu'il peut. Et donc, ces gens-là, on peut les aider dès lors qu'on s'est dit ça. Et qu'on souhaiterait utiliser ce qu'on a fabriqué à l'extérieur pour polliniser les méthodes à l'intérieur. Et donc, on a pu réinternaliser un certain nombre d'équipes. Vous imaginez comment ça fonctionne dans Pôle emploi, hein. C'est la sous-direction des cahiers des charges, la sous-direction des machins, des applications, de l'intégration, de la gestion du changement. Donc, on n'a personne qui est responsable de quoi que ce soit. C'est structurel. Et là, on fabrique l'inverse, c'est-à-dire des gens qui sont une équipe intégrée, autonome, qui réunit l'ensemble des compétences, qui permettent de faire tourner un service qui rapproche l'offre de la demande. Et donc, ils peuvent être durablement... En 2050, on peut les garder, cette organisation-là. Elle est stable, elle a une finalité. Et donc, on a montré qu'on pouvait mixer ces deux modes organisationnels. Ça attire, ça, etc. Mais il y a peut-être un chemin, et on en était là, moi, quand j'ai quitté l'État, donc je vous laisse pouvoir en discuter, surtout, puisque on n'a pas... La réalité, c'est qu'en 6 ans, je n'ai pas transformé l'État. On a fait travailler 400 personnes dans ce type de méthode, donc on a montré que c'était possible, on a montré aux dirigeants que c'était possible, mais ils sont loin d'imaginer ce qu'on peut en faire, en fait. On est très peu nombreux à penser ce qu'on pense. Et moi, je suis à la recherche. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Parce que je suis à la recherche, effectivement, de techniques, de coaching, de ces 4 dirigeants. Je vois bien le blocage mental. Je suis passé par là. Moi aussi, j'étais un manager héros. Je vais résoudre ton problème. Laisse, je m'en occupe. Et j'ai basculé. Donc, c'est possible. C'est possible pour tout le monde, du coup. Mais voilà, il va nous falloir beaucoup d'énergie, puisque je pense qu'on a été très bon à fabriquer ces territoires, à donner du pouvoir à des petits, à des hommes et des femmes qui ont mené à bien des services publics, bon, je vous laisse découvrir, qui vont du Pass Culture au PIX, à la bonne boîte, à la bonne formation, des trucs pour l'insertion par l'activité économique. Donc, qui ont eu un impact pour beaucoup, mais qu'on a laissé trop en jachère le champ de l'accompagnement, de qu'est-ce que ça... Et donc, on a laissé la bureaucratie contre nous plutôt qu'à essayer de recruter ceux qui pourraient finalement accueillir les équipes à leur retour. Voilà un petit peu le témoignage que je voulais faire. Je pense que c'est plus intéressant maintenant de discuter si vous avez des questions. Merci beaucoup.
Alors, quelques questions. Allez-y, c'est le moment.
Plutôt une remarque. On avait commencé à partager avant la pause avec Pierre. Et tout à l'heure, il y avait eu une réaction, une question sur ce thème, qui est finalement la question de qui je suis en tant qu'individu posture haute. Tu emploies la posture haute. Alors, moi, je suis déformé parce que je suis coach et que je fais travailler par le corps. Mais je m'aperçois que les dirigeants doivent passer par cette posture, j'allais dire médiane, et qui se nourrit entre le haut et le bas. Mon expérience perso de coach ferait dire que ça doit systématiquement passer par le corps, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, je voulais partager avec vous la question, comment pouvons-nous instiller dans ces écosystèmes plus ou moins résistants. Nous, on travaille pour des grosses boîtes. On fait un déploiement en ce moment à la Poste pour 90 000 facteurs en accompagnement du changement. Il y a des résistances à tous les étages, en commençant par le plus haut. Alors, on travaille le COMEX, pas de la Poste, mais en tout cas, on travaille le COMEX avec des coachings d'équipe, coaching d'organisation, etc. Mais je me dis, hier, j'étais dans une grosse assurance. Ils veulent transformer à marche forcée les plateaux téléphoniques. Ils n'ont aucune idée de savoir qui est madame, qui est la persona et les X types de persona dans le plateau. Ils disent, oh ben, on a 1200, 1300 personnes en France réparties en X plateaux. Je veux plus 15% de productivité. Et la question que j'ai posée, c'est, mais vous voulez quoi, vous, derrière le COMEX? Vous voulez quoi, vous, madame? Vous voulez quoi? Et personne ne sait. Alors, Ikigai, ça peut être un outil. Il y en a d'autres, mais en tout cas, moi, je pose la question et on n'aura pas la réponse aujourd'hui, je pense. En tout cas, pour moi, c'est bien de savoir qu'on n'est pas seul dans ce genre de confrontation. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une dimension effectivement humaine aussi qui est à poser ou à poser avec nos outils, parce qu'on a une démarche de résistance en face qui tourne autour de, je vais résumer ça comme ça, qui est l'ego, voilà, ou les égos.
Oui, je pense qu'on l'a remodélisé en paternalisme autoritaire, hein, comment il s'exprime, mais on est vraiment là. Hein, je veux dire, on a réussi profondément les démarches là où il y avait quelqu'un, où on avait une relation apaisée, déségoïfiée, tu vois. Et je cite Jean parce que je l'aime beaucoup. Et le reste, on a fait des startups d'État, des services plutôt autonomes, on a fait le pass culture, mais on n'a pas changé de ministère de la culture, tu vois. Mais il y avait quelqu'un de la Maïf, non, tout à l'heure. Moi, je suis très. J'ai envie de vous poser des questions. J'ai essayé de contacter ton directeur général. Il m'a poliment pas répondu.
Oui, mais il n'est pas très accessible, mais oui.
Ouais, en lui demandant, mais voilà, comment j'ai vu ses témoignages sur comment il avait essayé de démarrer. Enfin, j'ai senti une forme de sincérité, me semble-t-il, par rapport au bullshit ambiant. Et comment tu
Je peux en dire quelques mots, en fait. Ouais, j'ai eu la chance de faire cette mission. Alors, j'avais prévu d'en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est pas grave. En fait, moi, en 2014, j'ai commencé une mission de conduite du changement. Enfin, c'est pas comme ça que ça s'appelait. Ça s'appelait l'audace de la confiance. En fait, c'est la stratégie de la Maïf. En fait, ce qui est important, effectivement, c'est le contexte. C'est-à-dire, le contexte de la Maïf n'est pas le même contexte que dans l'administration. Mais il y avait plusieurs ingrédients qui ont fait que ça a marché. C'est un, que c'était porté par les dirigeants. À la fois le président de la Maïf et le directeur général, donc avec une vraie intention de remettre la confiance au cœur du fonctionnement interne, sachant qu'à la Maïf, en fait, il y a sans doute des sociétaires ici, la Maïf, le niveau de confiance est très très élevé entre la Maïf et ses sociétaires. Donc l'intention initiale et le projet, qui était du coup désirable, c'était de remettre la confiance au cœur, notamment des salariés. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions, en fait, quelque part. Donc déjà, un projet incarné par ses dirigeants, et ensuite, des ressources dédiées pour le faire. Moi, je faisais partie des ressources dédiées avec finalement un terrain de jeu, c'est la boîte. Et comment on peut faire bouger la boîte? Comment on peut faire bouger les lignes? Et derrière, le changement, plutôt que de décréter maintenant, il faut que vous changiez, c'est plutôt de faire vivre aux gens une expérience de changement dans laquelle ils pourront expérimenter la confiance. C'est-à-dire que notre terrain de jeu, c'était la confiance. Et comment, par notre action, donc nous, on était une petite équipe d'une dizaine de personnes rattachées donc, au directeur général, comment, par notre action, on pouvait essayer d'incarner la confiance et de faire vivre une expérience aux collègues qui puissent leur refléter ce qu'est la confiance. Une illustration, juste peut-être. Par exemple, les premières actions emblématiques qu'on a menées, c'était des learning expeditions. Alors aujourd'hui, ça se fait partout, un peu partout. Mais l'idée, c'était, on va expérimenter, vous allez co-construire votre projet, aller visiter des entreprises pour apprendre et grandir. Alors, il faut savoir que la Maïf, c'est basé à Niort, c'est un peu auto-centré. Donc, l'idée, c'était quand même de se s'ouvrir à l'extérieur et donc d'aller en externe et se nourrir de ce que vous pourrez voir en externe. Et pourquoi la confiance? L'idée, c'est co-construire le projet pour en tirer quelque chose. Alors, ça paraît facile de dire ça, mais quand on travaille avec des managers qui ont l'habitude de déléguer, quand on les rend acteurs et qu'on leur dit maintenant, c'est toi qui vas réserver ton hôtel, qui va essayer de trouver la boîte que tu vas visiter, ça peut faire des petits points de friction, en fait. Mais juste pour résumer, c'est incarné par les dirigeants, des moyens pour les mener, donc une équipe dédiée avec des budgets dédiés, et puis dans l'intention, c'est vraiment de faire vivre une expérience, voilà, plutôt que uniquement la décréter.
Merci beaucoup. Donc vous avez eu cette chance d'avoir deux dirigeants alignés, son président, son directeur général. Je ne sais pas si tu as le début de l'histoire, le début de l'ébus, c'est-à-dire comment, quand eux deux se sont dit « on y va ». Mais... leur dire.
Non, on continue. D'autres questions hein. Ah, Malik.
Une remarque, un truc qui m'a marqué dans ton témoignage, c'est finalement d'aller, de ne pas aller mener un combat qui ne sert à rien. Et tout ce que tu as décrit me fait penser à ce que raconte Marc Alevi sur le croisement de deux mondes, finalement. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est un prospectiviste qui dit qu'on vit un très grand changement de paradigme et que sur cinq grandes ruptures, et qu'il y a une courbe, donc il dessine une courbe rouge avec des institutions bancaires, financières, tous les systèmes installés, dont politiques, qui de toute façon sont destinés à mourir dans leur fonctionnement, dont le seul rôle est de se maintenir en vie, donc à qui on ne peut pas reprocher, comme tu le dis très bien, de mettre des process, des trucs, et qu'on est à la zone inconfortable de croisement d'une courbe verte avec les initiatives telles que tu décris, et que c'est très inconfortable, et il encourage à ne pas mener de combat, c'est-à-dire de ne pas aller se battre, simplement faire émerger des choses, et la confrontation des deux va donner de la frustration et des gens qui renient ça, mais en même temps va montrer très concrètement par l'expérience qu'il y a une autre réalité qui se crée et puis qu'il faut du temps, et tu as parlé de temps et il va falloir du temps, donc de plus en plus de gens qui mènent ça. C'est vraiment marquant à ce que tu as décrit, de voir à quel point on croise ces deux mondes et qu'au lieu d'aller se battre, et tout à l'heure Philippe parlait de cet activiste social qui disait ça ne m'intéresse pas ceux qui veulent changer le monde en lancer des pavés, alors que c'est un peu ce qu'on vit tous les jours. Donc c'est assez marquant.
Voilà, mais le message qu'on a passé, merci, hein, c'est de permettre en fait d'augmenter le nombre de possibilités de gens de rentrer dans la courbe verte. Voilà, tout bête. C'est juste ça. Là où c'était possible, là effectivement, dans une haute fonction publique dont la psychologie, effectivement, moi, je me pose régulièrement la question, mais tiens, si ce gars-là, là, il travaille dans les années 50, bah, il ferait exactement la même chose. C'est-à-dire, dans les années 50, il y avait 30 000 bacheliers par an, quoi. Il n'y avait pas des outils capacitants là, qui lui permettent d'être encyclopédiste. Donc, le monde a énormément changé et les représentations du monde, elles, n'ont pas forcément évolué dans la tête des gens, surtout dans la tête des gens qui ont investi dans leurs études, dans leur, dans leur capital social et culturel pour être quelqu'un. Et donc, c'est compliqué de leur montrer le chemin de la courbe verte.
Alors, je me permets là de prendre la parole. Juste, le problème rencontré que vous évoquez et ce que tu viens d'évoquer avec les deux courbes, ça fait écho en moi à un article qu'avait écrit Philippe à propos d'une organisation qui s'appelle Les Trois Horizons et qui décrit parfaitement la situation rencontrée. À savoir, le premier horizon, c'est ceux qui font marcher la machine aujourd'hui. Et dès qu'on essaye de modifier la direction dans laquelle va la machine, y a une réaction immunitaire qui empêche, qui ne veut pas, qui de toute façon, s'il doit y avoir un changement, ça ne doit surtout pas changer la manière de penser. Et puis, il y a un horizon 3 qui est celui des innovateurs, ceux qui sont en rupture complète de la vision. Et c'est vrai, comme tu l'as si joliment évoqué, les uns considèrent les autres comme des connards qui ne comprennent rien à rien. Et donc ces trois horizons, je vous recommande le bouquin. Alors, il existe qu'en anglais, qui est de Bill Sharp. C'est comme la marque des copieurs, mais avec un E à la fin. Il dit... en fait, il y a un horizon et ça rejoint un petit peu, ça fait le lien en fait entre tes deux courbes, c'est que entre ceux qui ont cette manière de voir le futur, ceux qui veulent surtout ne rien changer, il y a au milieu les entrepreneurs qui, eux, vont être là pour incarner cette vision du futur, cette manière de voir le futur, avec des règles sociales, des outils, des règles d'usage, des règles sociales qui vont rendre la chose acceptable par ceux qui veulent surtout ne rien changer. Et tout ce livre, toute cette méthode, entre guillemets, autour des trois horizons, décrit bien que chacun est reconnu à sa place, chacun a la fonction et est reconnu par les autres comme étant, nous on ne veut pas bouger, mais on sait qu'on va avoir des éléments de changement qui seront acceptables pour nous, et ça rejoint la perte acceptable, la perte acceptable de la commande de l'effectuation. Voilà, donc je vous recommande parce que c'est une piste assez intéressante justement pour faire cette transition entre des éléments de rupture frontale et l'acceptabilité du changement par les 80% en règle générale qui veulent surtout ne rien changer.
Et donc ça réclame des dirigeants qu'ils expriment ça auprès de, en disant voilà, c'est acceptable de ne pas avoir de monopole de l'organisation sur des choses. Or, l'organisation, elle se crée des monopoles toute seule. On aime bien que, ah, s'il y a le mec des moyens de paiement, bah, c'est tous les moyens de paiement, c'est moi. Et on ne peut pas supporter qu'il y ait un gars qui voit autre chose sur les moyens de paiement. Et donc, c'est la parole du dirigeant qui devrait mettre des mots là-dessus en disant, tout le monde a sa place. On peut faire des moyens de paiement tels qu'ils sont aujourd'hui là et laisser Bernard faire des moyens de paiement avec bizarre avec de la crypto-monnaie.
Alors, pour ma part, moi, j'ai été formée au modèle de Palo Alto. Donc, je m'appuie sur notamment ce qu'a fait Grégory Bateson pour expliquer les changements de type 1, donc qui maintiennent, qui maintiennent un système dans son fonctionnement, un changement de type 2 qui fait que, en fait, c'est trop difficile de rester dans son fonctionnement. Il y a trop de difficultés pour la personne qui choisit de changer, donc elle change. Et puis, un changement de type 3 qui permet de changer et de s'adapter en permanence. Et en fait, dans un système hiérarchique, d'abord, c'est pas tout le monde qui souffre de quelque chose. Donc, tant que quelqu'un ne souffrira pas de la situation, il va pas forcément faire d'efforts. Il a pas de raison de faire d'efforts pour changer. Et puis, tout le monde n'a pas la même place. Celui qui est au fin fond de son pôle emploi, essayer d'avoir des chômeurs en face qui trouvent du boulot, il souffre plus finalement que celui qui est dans l'administration centrale à se dire mais comment, qu'est-ce qu'ils foutent finalement les conseillers de Pôle emploi pour que ça ne marche pas. Donc, mais ils n'ont pas le même poids et en fait, quelque part, tu as donné l'opportunité à des gens qui n'avaient pas cette possibilité de mettre en œuvre des choses qui les faisaient souffrir et qui marchaient. Et donc ça, c'est génial, mais ça ne met pas les autres plus en souffrance de quoi que ce soit.
C'est exactement mon problème. Alors, c'est-à-dire que, tu vois, je prends la souffrance des frontliners, là, qui, eux, je leur donne du pouvoir pour résoudre leurs problèmes. Mais effectivement, toute la bande bureaucratique, middle management qui s'est installée là, et qui est dans une... Il n'y a pas zéro souffrance, une souffrance plus insidieuse. C'est-à-dire qu'ils gagnent 3 000, 5 000 euros par mois, donc ça va. Mais ils sont sous Prozac et si tu leur serres un peu des coups, tu dis mais alors le soir t'es content, tu dis à ta femme c'est super, j'ai encore fait une super.
Oui, mais c'est hyper violent quand tu leur dis ça.
Absolument. Donc, et donc j'ai pas trouvé la clé, hein. Tu vois, j'ai pas trouvé.
Moi, ce que je fais, ce qui fait qu'aujourd'hui je travaille plutôt avec des organisations petites et moyennes, c'est que je peux travailler en direct avec des dirigeants et que soit ils souffrent de quelque chose qui s'appelle peut-être pas de la même façon que moi ce que j'ai en tête. Mais ils souffrent de quelque chose et là on peut commencer à tirer un fil. Soit ils ne souffrent de rien et c'est même pas la peine. Moi j'y vais pas parce que qu'est-ce qui paierait quelqu'un à part pour une mode, mais dont ils vont rien faire.
C'est exactement
pourquoi ils paieraient quelqu'un pour
mais
quelque
chose.
Mais
tu sais, je me suis dit dans l'administration, donc j'y arrive pas dans le public. Enfin c'est compliqué. Tu sais, moi j'ai été en contact avec beaucoup de bureaucrates. Donc des gens que tu arrives après la 18e bière à lui faire dire bon ben comment tu juges l'utilité de ton travail? Oui, bah souvent proche de zéro. J'ai fait 3 réunions de coordination, après j'ai fait un plan qui a été mis à la poubelle, ensuite j'ai remis à jour le plan mais qui voilà. Et donc ces gens-là, mais ils sont prisonniers de leur prison dorée, c'est-à-dire que ils ont le salaire et je l'ai vu amplifier chez les fonctionnaires. C'est mais c'est pas possible, tu peux pas perdre ton emploi. Donc pourquoi tu ne laisses pas cours à ta douleur en disant oui, j'en ai marre et je veux changer, puisque de toute manière ta perte acceptable, c'est que tu vas changer juste de boulot, tu vas pas changer de salaire, tu peux pas être dégradé, tu peux pas être viré. Et malgré tout, ça n'ouvre pas. C'est-à-dire, il y a une crispation qui fait oui, probablement liée à un statut ou je sais pas, où j'ai et donc la douleur n'est pas suffisante pour les amener vers, bah regarde, tu as des métiers pour toi dans la ligne verte, hein, tu as des trucs en utilisant les méthodes que vous... Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu... Mais on n'arrive pas à créer... La douleur n'est pas suffisante, tu vois, malgré... Le bullshit jobs, je vous le conseille, de David Graeber.
Mais la douleur n'est pas suffisante pour individuellement faire bouger des choses. Et tant qu'il n'y a pas une autorisation par quelqu'un qui a... un niveau hiérarchique suffisant dans un bout du système, de dire finalement, vous pouvez être reconnu comme aujourd'hui, voire mieux en essayant de faire autrement, eh ben, il n'y a pas de possibilité pour les électrons de s'échapper et de faire un truc. Ouais. Voilà. Donc peut-être qu'il n'y a rien à faire là-dessus.
Et ce que j'avais proposé à Jean,
dans ton idée, c'est pour augmenter l'autorisation. Donc là, Jean, il a émis l'autorisation de dire, bon, bah, tous les 6 mois, on fait un challenge. Donc, on envoie un mail à 40 000 personnes disant, chers amis, vous êtes les témoins d'irritants réguliers pour les usagers ou les agents. Vous avez une idée qui passerait à l'échelle, enfin, ou qui passe par le numérique, mais qui passerait à l'échelle sans que ça nous coûte 4 milliards. Et vous êtes prêts à vous y investir 6 à 18 mois. Venez tel jour, telle heure. Ça, c'est le message. C'est toujours le même message. Et ça fait venir les intrapreneurs. Et on aurait pu envoyer, mais il ne l'a pas fait, un message vers les services centraux et les fonctions bureaucratisées en disant, voilà, vous avez le sentiment que votre travail ne sert plus à grand-chose ou que vous pourriez très simplement faire disparaître votre job sans que ça se... et ça va très bien se passer. Eh bien, venez dans mon bureau des RH, c'est ouvert, vous allez et on va vous réserver votre salaire, c'est-à-dire, de toute manière, vous considérerez que le job sera fait, hein. Et on va prendre le temps qu'il faut pour que refaire le process de vous retrouver un boulot de la ligne verte. Tu vois, un message dit, mais de toute manière, tu vois, la perte acceptable, tu comprends, de toute manière, son salaire ne sert à rien, on le paye. Donc, tu vois, vu du dirigeant, on s'est compris. Hein.
On s'est compris. Le seul truc, c'est qu'il y a tellement de facteurs de retour à rien, dont la pression syndicale, dont l'image de marque, voilà, que personne n'a intérêt à faire ça, parce que, un, ils ont peur que les gens se suicident, peut-être, si on leur dit qu'ils... Voilà, donc il y a une trouille bleue avec ça. Et de l'autre côté, il y a, t'imagines ce que tu peux mettre dans le canard enchaîné. Donc c'est impossible pour eux.
Vous avez raison. C'est compliqué, hein. Comme le coming out, il est compliqué. C'est pour ça que je vous dis, lisez Bullshit Job de David Graeber. C'est, dans des conversations privées, vous les avez. Hein, il évalue à 30%, le taux, ça fait quand même pas mal. Mais effectivement, donc les gens pour l'avouer. Et je me suis aperçu aussi d'une chose, c'est-à-dire que quand vous dites à quelqu'un, mais ce travail est inutile, le travail que tu fais est inutile ou est mal fait, etc. Ils entendent, je suis inutile et je suis mal fait et je suis mauvais. Non, c'est pas du tout ça que j'ai dit. Toi, t'es là depuis 40 ans, tu nous as aidés, t'as fait le boulot, c'est génial. Mais là, ça sert plus à rien. Et donc, ça marche. Et donc, mais il faut remonter à ça, dire non, toi, je t'aime, machin, tu es compétent, tu as plein de latence possible. Mais quand je dis ce travail ne sert à rien, ce n'est pas tu sers à rien. Et par contre, là
y a-t-il d'autres questions? Allez, une ou deux dernières questions.
Non.
Ah.
Non, je vais pas mettre le lien.
Vous avez donc fait des start-up dans l'État.
J'étais à Chalon-sur-Saône en 2001, 2002, 2003. Le plus gros employeur, ça s'appelait Kodak. Et j'ai vu et vécu de très près la fermeture du site de Kodak. Gros changement. Hein. Monsieur Martel me disait, 6 mois avant de fermer, on ne fermera jamais, puisque de toute façon, il n'y a pas de problème. On a des zones de réserve, notamment nous, on fait des films argentiques pour les radios pulmonaires, et les niveaux de gris sont hyper normés, donc jamais on pourra faire ça en numérique. Sauf que un imageur numérique de chez General Electric, ça vous envoie 10 fois moins de doses radioactives pour vous faire l'image. Donc quand on change, on change. Et l'adoption de l'appareil photo numérique, je le dis toujours, ça s'est fait en 4 Noël. C'est-à-dire que les gens se sont mis à utiliser l'appareil photo numérique et à abandonner brutalement, le brutalement est très important, l'argentique, parce que à Noël, on offrait un appareil photo et tout d'un coup, on faisait plus de photos argentiques. Et ça s'est fait à peu près en 4 Noël. Et quand Kodak a fermé très brutalement. Il n'y a pas eu aucun suicide, il n'y a eu aucun problème de reclassement. Non, mais je le dis, j'étais sur place. Il y a les employés de chez Kodak ont été licenciés par Kodak États-Unis, qui a fait l'échec. Et il n'y a pas eu une seule grève. Il y a ce côté-là. Le changement, les gens sont inutiles et on a peur des suicides. Je vous dis que cette usine-là, elle a fermé du jour au lendemain, quasiment. Et il n'y a pas eu... Mais ça a été peut-être parce que ça a été accompagné d'une manière très rapide.
Très rapide, probablement bien fait, bien parlé. Les mots ont dû être choisis pour rassurer. Le montant du chèque a dû rassurer également.
j'avais juste envie de refaire le lien avec une phrase qu'on sort souvent en conduite du changement, qui est un projet n'échoue pas par présence d'opposants, mais par manque d'alliés. Et ça, c'est vrai que très souvent, c'est des choses que je proposais de fonctionner dans nos équipes, c'était non pas de nous obséder avec le syndrome de la piste, c'est-à-dire nous obséder sur ce qui brillait, sur ceux qui faisaient plus de bruit, qui étaient les opposants, et qui avaient plus à perdre, et c'est exactement ce que tu racontes. Mais vraiment, aller de se dire, et là on est sur l'effectuation, c'est comment on va aller avec quelques petits autres qui sont concernés par une amélioration de la chose. On ne va pas encore faire du bruit, donc on n'est pas encore en situation de faire peur, mais juste, on veut y arriver. Et qui sont mes alliés? Et finalement, là, j'ai plusieurs fois dans des différents types de changements trouvé un levier qui était tout à fait inattendu et qui était moins spectaculaire. Mais tout à fait.
Alors, je ne peux qu'abonder dans ton sens, et on l'a même finalement intégré à la méthode. On appelle ça Open Lab, c'est-à-dire que n'importe quel intrapreneur, donc vous imaginez, c'est les petites équipes, il y a un intrapreneur, il y a un coach entrepreneur, puis des fois un informaticien, un designer, ou deux, ou trois, puis après ils terminent à 50, 100. Mais au départ, on leur dit, écoute, ton premier truc, c'est trouver tes alliés. Donc tu vas faire un Open Lab et tu vas trouver tout. Tu vas inviter là tout le monde, qu'ils soient dans l'administration, au-dessus de toi, machin, dans la société civile, ailleurs, mais qui souhaitent que ça marche, ton truc. Et tu ne vas pas t'occuper des autres. Mais tu vois, tu crées le lieu et tous les mois, on fait un open lab. Et alors ça, c'est une technique imparable. C'est-à-dire, tu mets itérative. Tous les mois, on sera là. Le premier mardi du mois, de 14 à 16 heures, c'est l'open lab, le taxi. Et, des taxis, des compagnies, des syndicalistes, des mecs du bureau de la préfecture. Mais voilà, parce qu'on va faire ce truc ensemble et on va réunir nos alliés. Et ça, on l'a intégré de manière structurelle, c'est très important.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, je vous invite à le dire pour nous soutenir. Si vous souhaitez être interviewé, prenez contact avec moi. À bientôt pour un prochain épisode. Merci.